France Musique. C'est l'été sur France Musique. Grand large. Priscille Lafitte.
Troisième jour de voyage autour de la Méditerranée, nous accostons aujourd'hui dans la capitale italienne. Nous sommes conviés aux fêtes romaines imaginées par Ottorino Respighi à la fin des années 20. Grande fresque historique avec fanfare romaine et chants populaires. Trois buccins dans le premier mouvement, de la mandoline, un orgue, un piano à quatre mains, une crécelle et des grelots dans les percussions. C'est un poème symphonique aux sonorités élargies que crée Ottorino Respighi dans ses fêtes romaines. Dans l'Italie fascisante des années 20, Mussolini cherche à asseoir sa légitimité par la musique. Le musicien devient un outil au service du parti. Il n'y a qu'à lire les critiques dans la presse italienne au lendemain de ces fêtes romaines de Respighi. S'il est aujourd'hui un musicien qui, par son œuvre, représente la musique de son temps, c'est bien Respighi de cet article. La musique de son temps est un compliment qui a ses sous-entendus dans l'Italie des années 20. L'italianité est alors un mot qu'aimait employer Mussolini pour qualifier une œuvre ou une région avec pour but d'adouber un artiste ou d'asservir un territoire. Ainsi cet article qui estime que l'italianité de Respighi ne réside pas dans son rejet de formes évoluées et progressives qu'il possède au plus haut degré, mais dans la conquête victorieuse d'une clarté immédiate, réconfortante et dans la vibration saine, vigoureuse de sentiments humains et universels. L'air, le soleil, la vie et le salut, tels sont les attributs de l'art nouveau, de notre art, et ce sont là précisément les attributs du poème selon Respighi, portés à leur plus haute évidence dans les fêtes romaines.
Thank you.
Ce sont des années noires en Italie où la lecture politique d'une œuvre prime, alors même que le compositeur Respighi reste prudemment à l'écart des effusions politiques. Il peut compter sur la protection du chef autoritaire et intouchable Arturo Toscanini. La création des fêtes romaines a d'ailleurs eu lieu sous la baguette du chef Toscanini en février 1929 à New York. Le régime de Mussolini n'a jamais vraiment inquiété Respighi, a préféré exploiter sa renommée et l'inclure dans sa propagande. Mussolini n'était pas inculte. En tant que violoniste amateur, il connaissait bien l'œuvre de Respighi et l'a même nommé membre de la Real Academia d'Italia. Respighi fait redécouvrir à l'Italie son patrimoine musical. Il réhabilite les œuvres de Vivaldi, réorchestre l'Orfeo de Monteverdi et compose à partir de thèmes anciens des suites de danse et airs pour luth.
Thank you.
C'est une époque où le répertoire ancien commence à être réhabilité, les partitions oubliées à reprendre vie. C'est ainsi que Mali Pierrot inaugure le plus monumental de ses travaux, l'édition intégrale des œuvres de Claudio Monteverdi. Puis Dalla Piccola s'approprie le retour d'Ulysse dans sa patrie. Et dans le patrimoine musical transmis de génération en génération, il y a cet air fameux écrit par un contemporain de Monteverdi, Giulio Caccini, un madrigal à une voix, Amarilli mia bella, datant de 1602 ici par le ténor Beniamino Gigli. Beniamino Gigli est alors le chanteur préféré du Duce. Il a même enregistré une version de l'hymne fasciste Giovinezza à la gloire de la jeunesse, de l'effort, de la patrie et de Mussolini, dont le nom revient plusieurs fois dans cet air. Mais revenons à Toscanini, le chef d'orchestre qui avait dirigé la création de l'opéra Turandot en 1924 à la mort de Puccini, s'est vigoureusement opposé à ce que le Duce se mêle de questions artistiques. La légende veut que Toscanini ait même refusé de jouer ce Giovinezza que nous venons d'entendre lors des funérailles de Puccini. Mussolini aurait donc préféré ne pas se rendre au théâtre ce jour-là, au prétexte de ne pas distraire l'attention du public qui devait être entièrement concentré sur la musique de Puccini, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, 5 ans plus tard, à l'été 1929, les tensions entre Toscanini et le pouvoir fasciste sont à leur comble et le chef d'orchestre démissionne de la Scala de Milan. La maison d'opéra se retrouve rapidement gérée par des bureaucrates fascistes. Dans ce tableau musical de l'Italie fasciste, il y a un trublion difficilement classable, c'est Igor Stravinsky. Le compositeur russe Igor Stravinsky s'est installé à Nice en 1924 et l'année suivante, il part à Venise pour la Biennale au volant de sa Renault. Mais peu avant de quitter Nice, une infection au doigt se déclare. La veille de son départ, il se rend dans une église et prie longuement. Une fois à Venise, il s'apprête à jouer, monte sur scène, adresse quelques mots d'excuses au public pour expliquer qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Il enlève son pansement pour jouer. Voilà que son doigt est guéri. C'est une époque où Stravinsky se passionne pour la religion. En rentrant de Venise en septembre 1925, Stravinsky fait une étape à Gênes. Il y achète une vie de saint François d'Assise, texte qui le plonge dans une méditation sur l'usage de l'italien, du français et du latin. Cette réflexion linguistique l'amènera à choisir le latin pour son opéra oratorio, Oedipus Rex, écrit en collaboration avec Jean Cocteau. Vis-à-vis de Mussolini, Stravinsky arbore une forme de respect, voire une admiration. Le compositeur affirme que le dirigeant italien est, je cite, « le sauveur de l'Italie et de l'Europe ». Il faut dire que le dictateur italien cache encore son jeu vis-à-vis de ses admirateurs étrangers. Entre 1920 et 1930, de nombreuses initiatives sont prises en faveur des échanges internationaux. Les œuvres de la Seconde École de Vienne, de Stravinsky, de Hindemith sont les bienvenues dans les programmations italiennes. Certains festivals encore actifs aujourd'hui voient le jour, comme la Biennale de Venise. Le Duce se montre conciliant, évite tout conflit avec les esthétiques et loue aussi bien le courant vériste que le courant futuriste. Mais en réalité, Mussolini cherche déjà à transformer le statut d'artiste indépendant en celui de bureaucrate fonctionnaire de la musique. De 1930 à 1943, entre la conquête de l'Éthiopie et les lois raciales, s'impose de plus en plus fortement le contrôle et la censure de la création musicale. Le régime fasciste se targue de rechercher un consensus populaire, d'aller vers le peuple. La création est en net repli. Le pouvoir favorise la tradition de l'opéra italien fin de siècle et le considère comme un rempart face aux expérimentations modernistes. Le septuagénaire Mascagni est alors le compositeur en vogue. Le concert de 1932 pour la célébration du 10e anniversaire de la marche sur Rome, en présence de Mussolini, montre toute l'importance de la musique pour glorifier le Duce. On y entend l'ouverture des Vêpres siciliennes de Verdi, le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy que Mussolini chérissait, la chevauchée des Valkyries de Wagner et puis, après quelques airs d'opéra, la cérémonie se clôt avec l'hymne au soleil tiré d'Iris, opéra signé Mascagni.
Thank you.
grand large. Priscille Lafitte.
Mais quittons les rivages sombres de l'Italie fasciste et traversons la Méditerranée. Tout autour de la Grande Bleue, la musique est lourde d'un sens politique. Nous le verrons plus tard en Espagne. Les années 1930 sont également marquées par le nationalisme arabe, avec l'effondrement de l'Empire ottoman, l'indépendance de la Turquie et la montée du sionisme. Les Arabes se cherchent une identité musicale. C'est naturellement au Caire, berceau du panarabisme, que le baron d'Erlanger, un féru de musiques arabes, habitant en Tunisie à Sidi Bou Saïd, donne rendez-vous à des dizaines de musicologues, musiciens et compositeurs pour un grand congrès de musicologie. La question est de savoir définir les contours de la musique arabe, du Maroc jusqu'à l'Irak. C'est la raison d'être du congrès du Caire en 1932.
يا عيني يا عيني يا ابو علي الله الله يا سي حسن يا عيني يا سحتين يا روحي يا سعواد
C'est une musique caractéristique de l'Égypte des années 20 et 30. Une flûte soufara et le tambour sur cadre avec cymbalette appelée dou. Cette flûte et ce tambour sont souvent rejoints par la voix d'un chanteur et par une double clarinette nommée argoul. Voici donc le répertoire que l'on peut entendre au Caire et dans ses environs. On appelle cette musique baladi, qui veut dire du pays. Et voici à présent une improvisation au Naï, du rituel soufi. Ces musiciens sont enregistrés grâce à la gramophone anglaise en 1932. Ces musiques baladi du pays sont présentes au Congrès du Caire au printemps 1932 à la demande express des musicologues occidentaux qui veulent entendre de la musique populaire égyptienne. Il y a là Béla Bartok, Pauline de Mitte, Aloïs Abba et Henri Rabeau, ainsi que des musicologues et des musiciens venus de Turquie, du Liban, d'Algérie et de Tunisie. Leur ambition est de passer au crible ce qui peut être considéré comme de la musique arabe, disséquer ses spécificités, son instrumentarium, ses échelles d'harmonie et ses modes, afin de sortir de la vision simpliste et orientalisante de ses musiques. Le Congrès du Caire s'inscrit à la suite du mouvement de renouveau culturel arabe appelé la Narda. La troupe Kayrot du Hajj Taha Abou Mandour fut l'une des dernières à perpétuer cette tradition avec des hautbois de différentes tessitures, comme on peut en rencontrer aussi en Turquie ou en Catalogne. Le petit hautbois, Sips, joue la mélodie à l'octave aiguë, alors que le grand ou le moyen hautbois, Mizmar, l'exécute à l'octave grave ou tienne un bourdon prolongé. La technique de jeu du hautbois égyptien exige une émission d'air continue. Ces pièces citadines, savantes, militaires ou religieuses proviennent d'un répertoire aujourd'hui oublié. Et cette troupe, Kayrot, a été l'une des dernières à perpétuer cette tradition. C'est une invocation des esprits venus de Haute-Égypte, un rite appelé Zahr, par Ibrahim al-Madiya, une prêtresse chantant en dialecte égyptien et nubien. La musique enregistrée au Caire en 1932 est déjà celle du passé en quelque sorte, car les pratiques instrumentales et chantées vont beaucoup évoluer au cours de la décennie. La musique populaire dans les cafés du Caire, le shaabi algérien. Mais ces enregistrements ont le mérite de fixer des idiomes musicaux et de laisser une trace inestimable, une photographie sonore d'une époque. En clôture du congrès du Caire, devant le roi Fouad, retentit la voix de l'astre de l'Orient, la quatrième pyramide d'Égypte. Ce concert n'est pas enregistré, mais je vous propose, en remplacement, d'écouter une chanson que Kalsoum a gravée sur disque la même année. « Décennie, la jeune Oum Kalsoum a imposé une voix, un répertoire et une instrumentation. Cette orchestration est amenée à bouger, à être augmentée au fil des créations. Son génie repose sur ses longues variations, sur quelques phrases, des improvisations à tiroir et à surprise qui tiennent en haleine l'auditeur, mais elle a su surtout s'entourer des meilleurs musiciens. En 1927, les membres du petit orchestre qui l'accompagnent jouissent d'une réputation qui dépasse même celle de la chanteuse. Au centre de cette révolution musicale, il y a Mohamed El Kassabghi, joueur de oud, compositeur et orchestrateur. C'est lui qui réunit cet orchestre au théâtre de la Comédie arabe. Il a recruté Mohamed El Akkad, dit Akkad le Grand, un musicien de kanoun très respecté. Le kanoun est cet instrument sur table de la famille des sitars. Ses premiers enregistrements datent de la fin du XIXe siècle et c'est la première fois qu'il accompagne une femme. Le violon est joué par Sami El Shawa, soliste syrien qui s'est déjà produit en Europe et en Amérique. Le triomphe de cette formation musicale fait exploser la notoriété d'Oum Kalsoum. Elle est partout, sur les grands écrans et sur les ondes de radio. Dans tout le pourtour sud de la Méditerranée, les rues se vident tous les premiers jeudis du mois pour écouter son récital diffusé en direct. Elle sillonnera les routes, ira chanter à Haïfa au cours de cette décennie 1930, pour protester contre le protectorat britannique dans cette ville de Palestine. Nous la recroiserons au cours de notre périple, d'autant que son orchestre s'étoffe et se modernise au fil du temps et de son succès. Des violoncelles enrichissent l'harmonie et une influence italienne se fait même entendre. Il faut dire qu'il y avait une forte communauté italienne alors en Égypte, particulièrement à Alexandrie.
Thank you. الفكر
Nous retournerons en Égypte au fil de ce voyage autour de la Méditerranée. Nous entendrons l'indétrônable Mohamed Abdelwahab, roi du Oud, dans ce milieu du XXe siècle. Nous écouterons aussi Willem Furtwängler en tournée au Caire. Mais patience, le grand large méditerranéen reste encore à notre horizon pendant 7 jours. Merci à toute l'équipe qui a permis cet épisode de la série Grand Large. Benjamin Vignal à la technique, Olivier Guérin à la réalisation, Pauline Boisaubert pour la documentation et la mise en ligne. Et merci aussi à la discothèque de Radio France pour leur aide précieuse. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.